Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Thierry Chaise, Antoine Guillot, Julien Gester sont à mes côtés, tout comme chaque soir, Lucille Como. À notre affiche, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Soy Nero de Rafi Pitts et Brooklyn Village d'Ira Sachs. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans son petit salon pour débattre d'un sujet dans l'actualité culturelle. Cadeau à gagner ce soir grâce au jeu de la dispute, des invitations pour l'exposition Provoque entre contestation et performance, la photographie au Japon 1960-1975, une exposition à découvrir jusqu'au 11 décembre au Bal à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec le film qui a reçu le grand prix du dernier festival de Cannes, Juste la fin du monde, réalisé par le Canadien Xavier Dolan, d'après la pièce de Jean-Luc Lagarce, qui raconte le retour après une dizaine d'années d'absence dans la maison familiale d'un écrivain qui veut annoncer à sa famille qu'il va bientôt mourir. Dans le cas de Lagarce, au moment de l'écriture de cette pièce, c'était le sida, dont il mourra quelques années plus tard. C'est Gaspard Ulliel qui joue le rôle de Louis, cet écrivain. Nathalie Baye joue sa mère, Léa Seydoux sa sœur, Vincent Cassel son frère et Marion Cotillard, sa belle-sœur.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien, depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Ils fermeraient les yeux sur les erreurs. Ou ils me reprocheraient tout, ne me pardonneraient rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Voilà pour cette bande-annonce qui se trouve être la voix off qui ouvre le film. Bon, je dirais pour moi, à mon avis, c'est le premier problème du film. Mais je vais d'abord entendre les avis de mes camarades autour de cette table. Julien Gester, sur ce film de Xavier Dolan, dont vous avez du mal à vous souvenir, parce que vous l'avez vu au Festival de Cannes, et on a l'impression qu'il n'a pas complètement imprimé vos neurones.
Il reste assez à présent.
Vous étiez en train de relire votre papier avant cette émission.
De vérifier vraiment jusqu'à quel point vraiment
la
colère immédiate.
C'est pas du tout pour
donner
mais pour dire à quel point, voilà, ça peut aussi, ça dit quelque chose quand même.
Non, mais ça dit rien du tout, parce que de fait.
Comment ça? Si ça dit quelque chose.
Non, vous ne dites rien, Arnaud Laporte.
Ça dit quelque chose.
Non, ce que ça dit simplement, c'est que je n'ai en effet pas eu le courage de me reconfronter au film 4 mois après. En revanche, il est assez présent. Enfin, je m'aperçois en effet en relisant ce que nous avions coécrit avec Didier Perron au lendemain de la projection que c'est à peu près le souvenir que j'avais gardé du film, c'est-à-dire celui d'une espèce de sortie de route à frein, enfin boîte de vitesse arrachée de Xavier Dolan qui a un peu dégainé, sorti ce film de son chapeau entre Donc Mommy, qui est le film qui l'a donné à un public très vaste en France et à l'étranger, qui lui avait permis de rentrer, de se hisser assez haut au palmarès cannois, puisqu'il avait obtenu un
prix du jury.
Ex aequo avec Jean-Luc Godard, ce qui n'était pas rien. Et puis son projet américain, maintes fois annoncé depuis des années, maintes fois différé, donc je crois qu'il est entamé finalement la production, dont il tourne, qu'il tournera jusqu'à l'été prochain, et puis qu'on verra peut-être ou peut-être pas à Cannes l'année suivante. Là-dessus, il tient des propos.
Il faudrait que lui soit là et nous aussi.
Contradictoires. Voilà.
Ça fait beaucoup.
Ça demande un alignement des étoiles qui est difficile.
Qui est possible.
À postuler. Je parle de sortie de route parce que, disons, je vais pas faire un exposé très long sur mon rapport au cinéma Xavier Dolan, mais malgré tout, je pense que c'est un cinéaste qui suscite des réactions tellement clivées, clivantes et peut-être un peu éruptives qu'il faut peut-être dire où on en est toujours avec lui. C'est quelqu'un dont je trouvais qu'il y avait évidemment une virtuosité qui se donnait à voir dans ses premiers films, mais que je trouvais toujours un peu court, un peu léger par rapport à l'ambition qu'ils portaient ou par la durée qu'ils entendaient couvrir, qui m'avait vraiment sidéré avec Lawrence Anyways, qui est un film que j'attendais pas de lui, a fortiori sur une durée telle, justement, alors je trouvais que ses précédents faisaient rentrer un court-métrage dans un long et s'étirer avec des effets un peu de copiste, voilà. Et puis, je peux pas dire que j'avais un amour fou à Mommy, mais je sentais quelque chose de l'ordre d'un pompiérisme un peu immonté, mais il y avait dans ce film malgré tout une énergie qui était indéniable, qui n'était pas rien. Voilà. Aujourd'hui, le pompiérisme est bien présent dans Juste la fin du monde, mais je trouve que cette énergie, cet aspect vivant qu'on pouvait pas dénier à son film précédent sous les effets de coups de force et les effets de style, cette énergie elle s'est totalement éteinte et s'est totalement affaissée sous un projet formel notamment. Pas que, mais essentiellement un dispositif qui est matraqué, je trouve, au spectateur, en effet, quasiment dès l'introduction. Et puis ensuite, dès que ce personnage donc de Gaspard Ulliel va arriver devant son leurre dans la maison familiale et va s'engouffrer dans un tunnel de gros plans dégoulinants, surmaquillés et surtout... C'est la première chose, moi, qui me frappe et qui me retient de mettre ne serait-ce qu'un orteil dans ce film, totalement désancré de tout. Et au fond, cela est totalement revendiqué. C'est-à-dire que ces gros plans, les quelques plans larges qui inscrivent les personnages de quelque chose, ne les inscrivent que dans une carte postale qui est elle-même désancrée de tout en inscription dans une époque, dans un lieu, etc. Ce qui pourrait ne pas être un problème, mais le problème, c'est que ça produit une désincarnation des personnages, des enjeux, de la situation qui nous est donnée comme une situation qui va advenir et qui finalement n'advient jamais. Donc on assiste à une forme de, je crois que c'est le mot qu'on avait employé à l'époque, de préchauffage hystérisé de quelque chose qui au final n'adviendra pas et dans lequel moi je me perds totalement sans trouver la moindre empreinte de ce qui serait justement le monde. On imagine, on regarde des destins qui est donné au personnage que juste la fin du monde, c'est ce qui accompagne la fin de soi, mais sauf que le monde cesse à la seconde où le film s'élance.
Alors, un orteil, deux orteils, perdu, trouvé, Thierry Chaise.
Je suis allé le revoir parce que j'avais un souvenir très pénible, parce que la projection à laquelle j'ai assisté moi à Cannes, il y avait un énorme problème de son où tout était beaucoup plus fort. Et dans ce qu'on a entendu à la fin de la bande-annonce, je vous assure que le son très fort, ça m'avait cassé la tête.
La projection parisienne à laquelle j'ai assisté, voilà. Le son était beaucoup trop fort.
Aussi.
À mon goût. Je pense que c'est Xavier Dolan demande à certains volumes.
Mais moi, je n'étais pas non plus un dingue absolu de Mommy et je rejoins totalement Julien là-dessus, sauf que j'étais porté par quelque chose. Là, ce qui me fascine assez, c'est à quel point le film peut être désagréable. Je trouve qu'il est mal aimable, quasiment de bout en bout, et pour moi c'est quasiment sa qualité, c'est-à-dire que on n'arrive pas à s'attacher à l'un et l'autre des personnages qui sont chacun enfermés donc dans une caricature, ce qui demande donc pour moi aux interprètes un véritable exploit de tenir la même note de bout en bout. Alors on sera peut-être pas tous d'accord sur, mais je trouve que c'est là extrêmement inégal que Marion Cotillard, Nathalie Baye, moi je trouve ça s'en sort très bien, que pour le reste c'est flou, et qu'à partir du moment où c'est flou, l'hystérie telle qu'elle doit être jouée devient extrêmement pénible. Je trouve que par rapport à Mommy, justement, il n'y a pas de progression. C'est-à-dire que Mommy m'avait surpris par son enthousiasme. On se souvient de cette scène, de seul coup, l'écran s'entrouvrait. C'était peut-être quelque chose, en effet, de très stylisé. Mais il y avait là, on refait la même chose. C'est-à-dire qu'on emploie un tube de ozone, comme on avait employé Céline Dion. On répète. La seule chose qui change, c'est donc ce casting auquel il ne s'était pas exposé. C'est donc cette œuvre qu'Anderval, sa comédienne fétiche, avait fait lire des années plus tôt. Il n'avait rien compris, puis il l'a repris là. Et j'ai l'impression qu'il est...
Je pense qu'il a toujours rien compris, mais j'y viendrai.
Non, voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est débordé par tout ça. Et donc, puisqu'il est débordé, il fait ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, il reste sur cette chose formelle de dire, puisqu'on n'est pas au théâtre, on va filmer les gens en gros plan. On va pousser. Et donc, du coup, on a un sentiment d'enfermement qui est désagréable et qui peut, moi, me séduire. Sauf que sur 1h35, qui m'en a paru beaucoup plus, j'ai pas été séduit et je trouve que c'est un recul.
Alors, Antoine Guillaume, le plus grand, le plus fervent défenseur de Xavier Dolan depuis son premier film.
Je vais pas, moi non plus, revenir sur mon histoire avec Xavier Dolan, mais on peut dire que c'est juste un autre film de Xavier Dolan. Enfin, moi, je ne vois pas d'évolution dans un sens ou dans l'autre. Ou peut-être, effectivement, le système qui pouvait faire illusion à un moment affiche toutes ses faiblesses à présent, puisque c'est un, comme d'habitude, un cinéma de trucs. Donc là, le truc, c'est ce que vous venez de décrire, Thierry Chaise. Ah, bah, au théâtre, il n'y a pas de gros plans, alors on va faire des gros plans comme ça, on voit bien le visage des comédiens. Ah, puis en plus, ça fait étouffant, donc on aura l'impression d'étouffer comme dans cette famille. Vous parlez de son trop fort, mais c'est toujours le même principe chez Xavier Dolan. C'est-à-dire que c'est le monsieur plus du cinéma, celui qui voudrait mettre le volume à 11, comme dans ce documentaire sur ce groupe de rock. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le monsieur plus du cinéma. Donc je vais prendre. Vous aimez Marion Cotillard égarée, elle le sera encore plus. Vous aimez Vincent Cassel violent, il le sera encore plus. Vous aimez le côté transgenre de Nathalie Baye, type absolument fabuleux, et ben je vais le pousser encore plus loin, etc., etc. C'est-à-dire, tout est dans l'exagération. Vous aimez les moments où la musique va vous faire lever de votre siège et on va réhabiliter les tubes populaires et aller j'y vais. Puis comme en même temps, il se dit, je veux pas faire du théâtre, mais en même temps, j'en fais pas. Alors j'ai quand même illustré quelques moments. Donc il y a les moments clipesques habituels chez Dolan. Je vous recommande le moment proustien du matelas du stupre. C'est un moment assez merveilleusement débile, quoi. Et c'est un cinéma qui est j'aime pas le dire, mais qui est vraiment con dans la mesure où il est bête et désagréable. Bête et désagréable en même temps. Donc une fois qu'on a le catalogue de trucs, on poursuit son programme et puis on ne s'en sort pas. Donc effectivement, il est difficile d'y entrer, mais je trouve guère plus que dans les films précédents de Xavier Dolan, qui reposaient sur les mêmes procédés, même si en étant un peu moins dans le contrôle par moment, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait de la vie quelque part.
Alors, moi, j'ai plusieurs aveux à faire. Voilà. Je passe à confesse, c'est la première fois que je trouve Marion Cotillard pas mal dans un film, parce que vraiment, elle m'insupporte au plus haut point d'habitude. Et c'est même la première fois que je trouve Vincent Cassel pas mal, même si, je vous en ai parlé, Lucille Comeau, c'est une imitation de Jean-Pierre Bacri qu'il fait dans ce film. Il a vraiment pris la musique du ronchon. Enfin bon, il l'était déjà, mais alors là, c'est quand même... C'en est stupéfiant. Enfin, je dis ça vraiment pour essayer de donner une note un tout petit peu positive, parce qu'effectivement, biche égarée et affolée, Marion Cotillard, voilà, elle a l'œil qui mouillé comme il faut, toujours prête à être très très fragile et très malmenée par cette famille, évidemment. Mais alors, moi, je suis heureux si des gens peuvent découvrir Jean-Luc Lagarce grâce à ce film de Xavier Dolan. Tant qu'à faire, il aurait dû prendre un autre texte, qui est Le Pays Lointain, puisque juste la fin du monde, c'est comme un brouillon de cette pièce, Le Pays Lointain, qui reprend les mêmes thématiques, mais de façon beaucoup plus belle et forte. Mais donc, je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait compris la pièce, ni ses personnages, parce qu'on est dans une... Vous parlez de préchauffage, Antoine, le frère de Louis, donc joué par Vincent Cassel, il est en surchauffe permanente, ce qui n'a pas de raison d'être dans le texte de la pièce. Nathalie Baye, effectivement, grimée en vieille pute, en cousine de la mère de Mommy, ça n'a pas de justification non plus, si ce n'est celle que vous avez avancée, Antoine Guillot. Je pense que ça doit être effectivement cela. Et cette voix off, alors je ne savais pas que c'était la bande-annonce qui ouvre le film, ça l'ouvre très mal parce qu'on entend que c'est faux. Enfin, ça sonne faux, comme vont sonner faux toutes les voix off, d'une part, qui sont relativement peu nombreuses, mais tout de même ce qui gêne. Les cris très fréquents n'ont pas plus de raison d'être. L'hystérie dont vous parliez, je crois, Julien, Jester. Je pense que c'est vraiment une lecture, je dirais, stupide de l'écriture de Lagarce. C'est comme jouer Sarah Kane en criant. C'est un contresens. C'est un théâtre qui se murmure. C'est un théâtre qui est vraiment extrêmement acéré. Enfin, une langue qui est dans une finesse alors coupante, mais c'est pas parce qu'on crie que ça coupe. Et donc là, effectivement, il manque singulièrement de subtilité. Et puis au niveau de la réalisation, bon, c'est quand même ça pour moi le grand problème. L'utilisation de la musique, vous l'avez déjà évoqué, mais on pourrait parler aussi de la découverte du flou, des courtes focales. Et là, il y a un nombre de passages au flou, de flou au net, qui est quand même d'une exaspération, qui provoque une exaspération, en tout cas chez moi, très grande. Et c'est vrai que du coup, ça, on est sur du truc qui sans cesse essaye de masquer quelque chose qui a du mal à être incarné, à exister, à tenir sur ses deux pieds, Julien Jester.
Non mais je suis d'accord avec vous, et en même temps je différerais peut-être dans l'argument, c'est-à-dire que je pense que Dolan ne doit rien à Lagarce.
Il le remercie.
Oui.
J'ai trouvé ça le pompon.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il...
Vous voyez, Dolan remercie Jean-Luc Lagarce. Remercier les morts, je savais pas que ça se faisait.
Je pense qu'il n'y a pas qu'une manière d'adapter Lagarce et qui que ce soit.
Non, mais il y en a des bonnes et des mauvaises.
Voilà, c'est ça. Le problème ici, c'est qu'il y a une seule note qu'on peut trouver assez problématique et qui est tenue tout du long, qui confine dans une forme de dictature du dispositif, une dictature du visage, une dictature du cri. Le cri, pourquoi pas, chez Lagarce, mais encore faudrait-il que celui-ci soit incarné. Et justement, je trouve ça intéressant qu'Antoine Guillot cite la séquence du matelas de stupre du personnage de Gaspard Huliel, parce que on peut reprocher plein de choses à la manière dont les films sont reçus à Cannes, avec peut-être un peu d'hystérie aussi, justement.
Bien sûr.
Mais ça se mérite, en rapprochant des films, de créer des collisions qui sont extrêmement éclairantes. Et justement, à Cannes, on a vu deux films qui rejouaient en quelque sorte la même scène. L'un d'entre eux, c'est juste La fin du monde, que nous évoquons là. L'autre, c'est Aquarius de Kleber Mendonça-Filho, dont vous parlerez dans cette émission la semaine prochaine. C'est un film brésilien que je trouve magnifique. Et dans Juste la fin du monde, donc on a cette histoire cette scène où Gaspard Huliel donc retrouve son le vieux matelas de ses amours adolescentes, et dans Aquarius, c'est une commode, c'est un objet qui provoque aussi une forme de collision, enfin presque d'aiguillon à la mémoire sensible, à la mémoire sensuelle d'un personnage qui va être percuté presque par un flot de mémoire. Et d'un côté, on a quelque chose dans le film de Kleber Mendonça-Filho, d'absolument surprenant, magnifique, dans la manière dont on va accéder à l'intériorité d'un personnage qui est entouré d'une extériorité, qui ne devine rien de ce qui traverse ce personnage, de ce qui fait la chair et le sel de sa personne, de sa mémoire, etc. Et de l'autre, on assiste au surgissement d'un clip, d'un fantasme, d'une image léchée, mais qui en même temps ne renvoie à rien, n'éclaire rien, et a fortiori ne fait pas exister un personnage. Alors même que je trouve que s'il y a une option, une liberté prise par Dolan qui est intéressante peut-être vis-à-vis de la pièce de Lagarce, qui relève d'un choix de mise en scène, c'est le relatif mutisme, le retrait du personnage de Gaspard Huliel par rapport à justement le déchaînement de vocifération autour de lui.
Oui. Mais s'il aimait tant le texte de Lagarce, ça aurait été bien qu'il le donne à entendre, ce qui est quand même difficile, non seulement dans la direction d'acteur, mais sur ses nappes de musique incessantes et sur ses effets visuels qui quand même parasitent aussi l'écoute. Il y a quand même beaucoup de ces problèmes-là. On s'arrête là pour... Alors, je sais que vous vouliez venir la semaine prochaine pour Aquarius, donc vous avez fait votre... on diffusera la pastille, on fera une rediff mardi prochain. Juste la fin du monde, Xavier Dolan, qui sort demain sur les écrans.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons donc tout à l'heure de Soy Nero de Rafi Pitts et de Brooklyn Village d'Ira Sachs. Pour l'heure, nous entrons dans le petit salon avec Lucille Como. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, vous allez nous parler...
D'une liste.
D'une liste. Laquelle ?
Il y a quelques jours est sortie la liste du CNC, CNC Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, pour la sélection Meilleur film étranger des Oscars 2017. Une liste de 4 films qui sera réédite à un seul à la fin du mois. Alors je trouvais ça plus intéressant d'en parler maintenant et pas à la fin du mois précisément, parce qu'ils sont encore 4. Ça permet de situer un peu ce que le CNC estime être un bon film français, ou alors, et c'est peut-être différent, on va voir, un film susceptible de marcher à l'étranger. Alors trêve de suspense, les 4 films cette année sont Cézanne et Moi de Daniel Thompson, Elle de Paul Verhoeven, France de François Ozon et Les Innocentes d'Anne Fontaine. Ça vous fait déjà rire. Des films très différents, donc un mélo en noir et blanc et en allemand, une tragicomédie contemporaine, un film sur la peinture, décidément après Renoir sélectionné il y a 2 ans, on va penser que c'est une stratégie, et un film franco-polonais qui se passe dans un couvent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a 3 critères qui définissent l'éligibilité d'un film aux Oscars, la date de sortie, il faut aussi qu'il ait bénéficié d'un contrôle artistique majoritairement détenu par des citoyens ou résidents français et qu'il soit l'objet d'une distribution aux États-Unis. Une liste de 4 films très différents, on repère tout de même un penchant pour les films d'époque. Peut-être faut-il trouver là une des clés de compréhension de ce choix, le cinéma européen comme représentation de l'ancien monde. Quant à Paul Verhoeven, il fait figure d'outsider dans la compétition, dans la mesure où, à mon avis, ce n'est pas vraiment un film français, mais un film américain sur la France. Ce qui me rappelle un autre article lu récemment sur les 100 meilleurs films de tous les temps, récemment publié par la BBC, c'était une liste aussi, parmi lesquels plusieurs films français, dont je cite les premiers, Michel Gondry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Michael Haneke, Le Ruban Blanc, quelques passes plus bas cachées du même Haneke, et Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Alors, loin de moi de faire du nationalisme cinématographique, mais on peut simplement remarquer que le jeune cinéma français, celui qui représente le contemporain français, on pense à Berko, à Kilvéré ou à Justine Triet, par exemple, dont on parlait la semaine dernière, ne figure pas dans ces listes. Quand on observe la liste des films envoyés par la France aux Oscars au fil des ans, on repère Mon oncle de Tati en 59, dans les années 60 plusieurs Romère, Truffaut, dans les années 70 Duras, Sauté, Blié. Alors je pose la question, pourquoi Victoria par exemple n'est-il pas sélectionné pour les Oscars 2017?
C'est bizarre, vous n'avez pas demandé pourquoi Divine n'était pas sélectionné.
On va pas relancer
c'est peut-être un
le
goût,
débat sur
c'est
une
question de goût personnel peut-être. Alors déjà, on peut revenir sur cette idée de film américain concernant Elle, réalisé par un Hollandais avec des interprètes français et produit par des Français. Alors peut-être que le pied de nez, ce serait par rapport au fait de l'envoyer à Hollywood. C'est Paul Bax to Hollywood. Ce serait plutôt ça la chose drôle, Thierry Chaise.
Mais c'est ce que, en tous les cas, au Festival de Toronto, où ces films, la plupart, étaient projetés, le grand favori était justement Elle de Paul Verhoeven. Pour raison simple, c'est que on veut, a priori, essayer de gagner cet Oscar qu'on n'a plus gagné depuis Indochine en 93.
Encore voilà. Un film à costume.
Exactement, encore un film, déjà un film à costume. Ça fait donc 23 ou 24 ans qu'on n'a pas gagné.
Donc, et ça fait combien de temps que ce n'était pas un bon film français qui a gagné?
Oh, ça fait un petit moment, ouais. Je pense qu'on
fait... Vous dites ce 11, c'est
la France.
C'est ce 11 qui gagne des Coupes du Monde.
C'est le même. Mais oui. C'est le même. Mais dans l'idée...
Mais moi, oui, c'est ça.
Là, il y a un comité de sélection qui, je pense, fait... qui ne réfléchit pas juste en termes de quel est le meilleur film, mais quel est le film qui peut être nommé ou gagné. Mm. Pour être nommé ou gagné, il faut savoir que le public, ceux qui vont voter là-bas, ont une moyenne d'âge de 75 à 80 ans. D'où les films en costume.
Ils sont très blancs.
Et ils sont plutôt blancs. Ensuite, il faut aussi que le film existe. Or, Elle de Paul Verhoeven, le distributeur Sony Classics, va faire une campagne massive pour qu'Isabelle Huppert soit nommée en meilleure actrice.
Ah oui.
Ça veut donc dire que le film va exister et que donc tout le monde en aura entendu parler. Voilà pourquoi, pour moi, Elle sera là. Et quant à l'absence du jeune cinéma français aux Oscars, je dirais que le jeune cinéma américain n'est hélas pas plus représenté. Là, c'est pour d'autres problèmes aussi, c'est que pour être représenté aux Oscars, il faut... payer, il faut faire des campagnes
financières, ouais.
Et que forcément il y en a qui en ont moins que d'autres, et quand on a fait son premier film qu'on fait Frances A, c'est plus compliqué d'être nommé que lorsqu'on est produit par Sony, Warner ou autre.
Alors justement le jeune cinéma, enfin la catégorie meilleur film de étranger devrait échapper à cette à cette injonction là justement, au marketing, à la campagne à plusieurs millions, etc. ne serait-ce qu'au stade de cette présélection. Je pense que ce à quoi se heurtent justement des films d'auteurs encore peu repérés, peut-être à l'échelle internationale, comme Justine Triet avec Victoria, voilà, c'est probablement plus l'absence de distributeurs américains. Mmh. En revanche, qu'on pourrait interroger, parce que vous disiez la liste du CNC, évidemment, il faut dire que c'est toujours, ce n'est pas le conseil de surveillance ou les dirigeants du CNC.
Parlons
qui
des membres de ce comité voilà. de sélection.
Il s'agit évidemment, comme toute décision du CNC, ou en général, d'une commission désignée comme compétente, qui, comme pour l'avance sur recette, comme pour toute subvention, comme pour l'aide à l'écriture, voilà. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on pourrait toujours discuter de la composition de ces sélections, enfin de cette commission. Mm-hmm. Évidemment, par exemple, dans le cas de l'avance sur recette, lorsque un producteur a un projet qui passe devant le comité lors d'une session, il ne siège pas ce jour-là, c'est son supplément qui est là. Alors, on pourrait considérer que c'est un cache-sexe un peu mince, c'est que ses camarades sauront se veiller au grain, mais c'est un minimum. Or là, il me semble que ce dispositif-là ne prévaut pas dans le cadre de la désignation des nommés pour concourir à l'Oscar, et que ça a des effets directs, puisque par exemple, il a déjà été dit avant cette émission hors antenne, mais aussi ailleurs, que par exemple à l'intervention a des intérêts dans le film Cézanne et moi qui se trouve miraculeusement désigné. Mais par ailleurs, on pourrait tout aussi bien, c'est pas spécialement un reproche, mais c'est une observation, considérer que Thierry Frémaux est en quelque sorte a des intérêts dans tous les films français qui passent par la sélection officielle à Cannes cette année. Il se trouve que le film que le seul qui a à peu près plus ou moins mes faveurs dans ces quatre-là est Elle, qui était en compétition cette année. Mais on peut imaginer qu'il privilégierait ce film-là par rapport à d'autres qui auraient été sélectionnés par d'autres sélections cannoises, puisqu'il y a évidemment un enjeu de service après-vente, en quelque sorte, pour les sélectionneurs des festivals et des différentes sélections cannoises, à ce que les films fassent carrière sur le marché français, mais évidemment à l'étranger. C'était un succès pour Thierry Frémaux, par exemple, quand The Artist, qu'il avait sélectionné à Cannes et que personne n'attendait en compétition à l'époque, avait eu derrière la carrière qu'on sait jusqu'au César puis aux Oscars.
Mmh. Antoine Guillot, vous avez une question ?
Oui, je dois vous avouer que ça me passionne pas complètement parce que on est navré chaque année en fait par les choix qu'ils font. Je crois que c'est dès lundi qu'on connaîtra le candidat. Donc
soit ça passe vite qu'à semaine.
Soit effectivement on va ressortir un film académique en costume sans danger, et on va continuer à donner à l'étranger, puisque c'est repéré partout à l'étranger, l'image d'un vieux cinéma un peu faisandé qui prend pas trop de risques et qui fait des beaux sujets. Soit effectivement osons Verhoeven, et là au moins ça fera du scandale, ça fera parler, parce que le film qu'on n'est pas extrêmement puritain, donc ça peut choquer quelques membres de l'Académie des Oscars de 75 à 80 ans, mais au moins le film existera, peu importe après qu'il ait un Oscar ou pas, ce qui est probable qu'il n'aura pas, parce que généralement c'est pas la France qui l'emporte. Mais c'est une vraie question d'image, et c'est ça qui me terrasse à chaque fois, c'est que c'est quand même à l'étranger, quand on sait que la cinéaste la plus renommée la cinéaste française la plus renommée aux États-Unis, c'est Claire Denis, on peut se dire que effectivement l'audace peut payer si on a une industrie et des instances qui la soutiennent à l'étranger, au lieu de se donner ce côté vieille Europe en train de crever, quoi.
Mais ces années, moi, pour revenir là-dessus, et pas tant un heureux hasard ou une bonne surprise parce que son producteur est dans le comité de sélection, c'est typiquement le genre de films qui sont choisis très souvent pour les Oscars, parce qu'on a des figures célèbres dans le monde entier, évidemment. Ça parle aux Américains, il y a eu Renoir, mais on a eu beaucoup de films comme ça en costume. Je me rappelle, c'était quoi, Le Père Noël dans les tranchées, là, ou un truc comme
Joyeux
ça.
Noël,
Joyeux Noël, enfin,
c'est
voyez,
une description. Vous voyez ce que
je tranchées, ouais, d'accord, c'est ça. Quand même, qui sont. Voilà, c'est quand même ça que. C'est cette image dont vous parlez, bizarrement, le CNC.
Mais les autres pays font ça aussi. Hein. Quand on voit ça, il y a un académisme dans certains pays, et puis il y a des choix politiques. On a vu par exemple qu'au Brésil, Aquarius n'est pas retenu parce qu'il a déplu au gouvernement. Et pareil, dans le comité de sélection, on a mis quelqu'un qui était à la tête très défavorable au départ à Aquarius. Voilà, au point que des cinéastes ont décidé de ne pas présenter leur film.
Avec cet argument formidable, disant que Aquarius est un film qui est trop brésilien, donc qui n'est pas susceptible d'intéresser les étrangers, alors qu'il a été vendu dans une soixantaine de pays, je crois.
Beaucoup.
Et ils sont allés chercher un petit film brésilien dont personne n'a entendu parler. D'ailleurs, il n'est toujours pas sorti au Brésil.
Julien Gester, pour finir.
Mais ce qui est piquant là-dedans, c'est qu'évidemment, en France, on est les premiers à railler les Américains lorsqu'ils viennent planter leur caméra ici et qui nous sortent des clichés, qu'on a l'impression qu'ils contemplent la France comme une image d'Épinal, une carte postale vieillotte, etc. Mais c'est pas...
C'est ce qu'on leur envoie comme image.
Bah, disons que le CNC, enfin plutôt les gens donc, désignés par le CNC pour opérer ce choix, ce prêtri, décident de leur renvoyer cette image-là, que ce serait la seule possible qui permettrait à la France de donner une image positive et éventuellement vainqueur de son propre cinéma, c'est assez accablant. Il me semble que le choix, pour le coup, de Mustang, l'année dernière, qui avait été discuté assez vivement à l'intérieur du comité, et notamment, on sait qu'en off, il y a un certain nombre de gens qui trouvaient ça étrange qu'un film, justement, qui se déroule, une production française, mais...
Qui se déroule en Turquie,
en langue turque, avec des acteurs et un certain nombre de techniciens du CRU, soit considéré comme le meilleur émissaire du cinéma français. Pour moi, c'est certainement pas mon film préféré de l'année dernière. J'ai pas une passion pour Mustang, mais je considère que c'est quand même un choix un tout petit peu plus tranchant et qui au moins met en valeur et en lumière quelque chose, un aspect positif du cinéma français, qui est son côté terre d'asile d'auteur. Et de fenêtre sur le monde, en quelque sorte.
Bon, terre d'asile pour Verhoeven, on verra si c'est lui qui portera l'étendard tricolore. On peut en douter quand même. Bon, bah, réponse la semaine prochaine. On verra ça. Merci, Lucille Comeau. Mais vous restez avec nous pour parler des films suivants aussi, que vous avez vus, je le sais. Le deuxième film à notre affiche ce soir, c'est Soy Nero de Rafi Pitz. Nero, le héros de ce film, donc à 19 ans, on le découvre alors qu'il essaye de franchir la frontière du Mexique vers les États-Unis. Un échec qui ne va pas le dissuader de retenter sa chance. On va peu à peu découvrir son histoire.
Name?
Maldonado. First name? Nero.
Where are you from, Nero?
South Central Los Angeles.
This is not for violence, okay? I'm using this to establish a boundary.
Hey, brother from another mother.
Is this your place?
Ah, claro.
I'm going to join the army.
Why would you want to join the army?
To fight for the country and become an American citizen.
Like your cousin Diego? And he came back with a fucking hook instead of a head.
Oh, he's very proud now, and he's an American citizen.
Oh, yeah, he's proud. He's proud to open your beer bottle with it.
You think I'm gonna go get a fucking gun? I'm gonna become G.I. fucking Joe?
Jesus.
Cool name, Muhammad.
I'm an American. You just...
What the fuck is wrong with you two, huh?
Stop!
I'll spread your legs.
Can I see some ID?
To the U.S. a fucking ass.
Defending our principles of democracy and freedom.
C'est Rhys Chatham qui signe la musique, c'est quand même autre chose que La fin du monde. Enfin, moi, elle me fait plus d'effet, elle me semble beaucoup plus adaptée à ce film. Antoine Guillot sur Soy Nero, pour commencer.
Ah, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il est très, très troublant. Déjà, le sujet qu'il aborde, donc c'est Green Card Soldiers, il me semble que c'est la première fois que je le vois abordé dans le cinéma américain. Hein. Donc c'est ces jeunes gens qui vont, comme d'autres, rentrer dans la Légion étrangère, faire tout pour rentrer dans l'armée américaine pour avoir une citoyenneté très fragile parce que elle est révocable assez facilement, et ce qui n'empêche pas dans une des scènes d'ouverture assez sidérante d'un enterrement au Mexique avec toute l'armée américaine qui est là pour remettre le drapeau plié selon le cérémonial militaire et funéraire américain, et
remettre le drapeau à la veuve.
Voilà, le remettre le drapeau à la veuve, tous les honneurs à quelqu'un dont qu'on a quand même poussé à la sortie. Donc il est enterré dans le cimetière de Tijuana et pas de l'autre côté de la frontière. Alors ça, c'est le sujet apparent qui est déjà en soi fascinant, mais au-delà de ça, c'est un film même sur sur, on pourrait dire, à la fois le côté factice de l'American Dream et en même temps sur notre capacité à y croire, malgré nous, presque. Comme le personnage de Nero qui, lui, y croit tout le temps, cherche à appartenir à la nation américaine et quasiment le seul à y croire, parce que plus aucun des Américains autour de lui n'y croit, ni ce vétéran qu'on a entendu qu'il rencontre sur la route, ni des Afro-Américains qui viennent de ghettos opposés l'un à l'est, l'un à l'ouest, et qui n'ont aucun terrain commun, même sur le plan musical. Enfin,
surtout pas.
On aime Tupac ou Dr. Dre, mais pas les deux, c'est pas possible. Et donc cette nation qui se délite, mais avec ce personnage un peu ahuri toujours, le regard très étonné sur ce qu'il voit, mais qui voudra y croire jusqu'au bout, dans ce qui n'est au fond qu'un voyage immobile et mental, puisqu'il va partir d'un désert, il va finir dans un autre, au milieu il en traversera un second, qui tous se ressemblent un peu uniformément. C'est la troisième partie du film qui
vous
se passe...
Vous n'êtes pas tout, hein, Antoine. Hein.
Je peux dire que ça se passe dans un... Non, on dit même pas que ça se passe à nouveau dans un désert.
Vous l'avez déjà dit.
Et puis on voit sur la
vous
fiche...
l'avez déjà dit.
Tout ça, on le sait, voilà, il va devenir...
Il va devenir le nouveau Mexique.
Mais oui, ça pourrait être le nouveau Mexique, justement. C'est pour ça que je parle d'un voyage immobile, d'un voyage mental, même si le personnage passe son temps à franchir des frontières, parfois à l'intérieur même du cadre. Alors, il y a des différentes délimitations, mais comme le cadre reste toujours autour de lui, c'est comme si ce personnage ne bougeait effectivement jamais. Donc, c'est un film qui atteint un niveau métaphysique très, très surprenant.
Julien Gester.
J'aime beaucoup ce film aussi. Ça fait un peu peur sur le papier. C'est ne serait-ce que parce que justement, bon, on parlait de ces histoires de nationalité qui sont pas forcément passionnantes. Voilà. Antoine disait que tout à l'heure, si je peux me permettre ce tout petit correctif, c'est la première fois que ce sujet des Green Card Soldiers est abordé à l'intérieur du cinéma américain. Alors, il se trouve que on peut pas être plus loin du cinéma américain puisqu'il s'agit d'une production franco-germano-mexicaine réalisée par un anglo-iranien résident en France,
coécrite
avec le scénariste star du nouveau cinéma roumain et produite par un grec installé en Allemagne. Donc au fond, à part les décors et un certain nombre d'acteurs et d'agents divers de la production, ce film n'a rien d'américain, et c'est sans doute pour ça aussi qu'il peut se faire, se confronter à cette histoire-là avec ce point de vue-là. Et néanmoins, donc cet agrégat de nationalité, de provenance, etc., pour donner le même sentiment, en tout cas, pour premier lieu, de prime abord, de désancrage, justement, que le film de Xavier Dolan, des gens qui débarquent en touriste avec un sujet fleur au fusil, pour se confronter à l'Amérique. Et je trouve que le film est extrêmement sensible parce que précisément on est dans un rapport non pas au territoire mais justement à la frontière. Il ne quitte jamais cet espace qu'on le voit franchir dans une scène absolument magnifique où il est éclairé en pleine nuit par un feu d'artifice, alors que c'est précisément ce qui permet de détourner l'attention des gardes frontières. Et le film fonctionne vraiment, je trouve, ça me semble très net, par boucle, un peu comme la musique de Rich Chatham, en un sens, c'est d'ailleurs qu'il emploie, qui le convie, comme vous le disiez, d'une frontière à une autre, d'un désert à un autre, d'un contrôle à un autre, avec à chaque fois des renversements à l'intérieur des petites unités du récit, ou à l'échelle macro d'un désert à l'autre, etc., qui montre en fait à quel point la frontière en fait ne cesse de se renverser elle-même, le mur en fait ne cesse de se retourner et de se refermer finalement sur lui. C'est un film que je trouve très très étonnant justement par cette manière-là de se construire absolument dans le réalisme et en même temps dans la fable, de mêler les deux sans sombrer dans quelque chose qui se présentait vraiment comme du world cinéma d'auteur académique. Mais ça a sans doute à voir évidemment avec la situation de Rafi Pitts, qui est en un sens assez comparable à celle du personnage, puisqu'il est lui-même derrière un mur qui l'empêche de retourner en quelque sorte chez lui.
Oui, il est pour partie iranien, il n'a plus le droit d'entrer sur le territoire iranien. Thierry Chaise.
J'ai adoré ce film aussi, vraiment. J'ai trouvé. Mais je trouve que s'emparer d'un sujet d'actualité aussi fort, et qui plus est dans la campagne américaine avec Donald Trump, et en faire vraiment du cinéma et pas juste un film façon dossier de l'écran en expliquant ce qui se passe, c'est extrêmement fort. Moi, j'ai l'impression, en voyant ce film, qui en effet parle à la fois du Dream Hack, donc du rêve américain, et beaucoup, comme vous l'avez dit, Julien, de la frontière, que le monde semble divisé entre les apatrides et en fait les gardiens de frontières. Il y a plus que ça. C'est quelque chose d'assez absurde et donc dans ce...
Qui sont parfois les mêmes.
Et qui se retrouvent à être parfois les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois en effet le côté réaliste, le côté fable et le côté presque comique absurde de certaines scènes, tant dans la réalisation que dans les faits. Et d'arriver à mêler ces trois éléments-là de bout en bout et de manière aussi brillante, je trouve que c'est assez rare et que le film n'est jamais démonstratif et toujours surprenant. On peut rajouter à la longue litanie des nationalités. Moi, j'avais noté la chef décoratrice est iranienne, la costumière aussi, l'ingénieur du son est italien. A priori, tout est fait pour que ce soit quelque chose où tout s'annule et en fait tout s'additionne pour faire un des films les plus inventifs que j'ai vu depuis longtemps. Moi.
Et a priori, sauf erreur, Christos Karamanis, le chef-op, est grec et la photographie de ce film est une de ses très nombreuses qualités. C'est vrai que ça faisait longtemps, hein, The Hunter, c'était en 2010, le précédent film de Rafi Pitz, qui montrait déjà vraiment de très très belles qualités. Moi, avec ce film-là, Soy Nero, il me semble qu'il est vraiment passé dans la cour des grands, Rafi Pitz, avec ce film qui est... Voilà, je reprends un peu ce que vous disiez, mais quand même maîtrisé de bout en bout, sur le fond et sur la forme, parce que chaque séquence, on va dire qu'il avance par grands blocs narratifs, et s'embarrasse pas d'ailleurs de scènes de transition. On passe vraiment d'un monde à un autre avec chaque fois cette espèce de, cette répétition d'aller s'écraser contre un mur, qu'il soit une étendue de sable ou qu'il soit un mur ou une barrière bien réelle. Et à chaque fois, que ce soit avec cet homme qui le prend en stop, avec son frère, à un autre moment plus tard avec ces Afro-Américains qui effectivement font la guerre du rap West Coast, East Coast, qui rejouent ça. Et c'est un film, contrairement au film de Xavier Dolan, qui est dans une grande économie de mots. Il ne se dit pas grand-chose et c'est un film qui nous raconte et qui nous dit beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que Rafi Pitz, contrairement à Xavier Dolan, d'une part croit à la puissance du cinéma et d'autre part à les qualités de cinéaste qui font que, oui, on n'a pas besoin de crier ou d'étaler ou de surligner pour dire le monde avec justesse et finesse. Antoine,
je crois que c'est la force aussi de la méthode Rafi Pitz, qui a beau travailler avec ce scénariste roumain dont vous aviez parlé, la Razvan Radulescu, celui qui avait écrit 4 mois, 3 semaines, 2 jours, entre autres les films de Cristi Puiu, c'est qu'il sait oublier son scénario. Il a une méthode de tournage qui fait rentrer la vie au moment même où il le tourne, avec l'apport de ses comédiens, avec l'apport de plein d'incertitudes, qui fait que autant de Hunter capturé avant même qu'elle arrive, la contestation dans la rue du pouvoir et les manifestations qu'on connaît, et on a le sentiment ici qu'il nous parle de l'Amérique qui va peut-être voter Trump, par exemple, alors que le film a été tourné bien avant que ce soit dans l'actualité, mais il y a une présence au monde dans les films de Rafi Pitz qui est toujours aussi impressionnante.
Et c'est vrai que l'esthétisme, qui peut parfois être un défaut, il faut quand même dire que chaque photogramme du film pourrait être exposé dans une galerie d'art. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Mais c'est pas du tout... on n'est pas dans le factice. On peut faire un très beau film plastique, mais qui nous touche profondément. Lucille Como, sur Soy Nero.
C'est tout ce que vous avez dit, je trouve que c'est tout à fait exact. Vraiment, c'est un film sur les verrous. C'est-à-dire qu'il y a des verrous en permanence. C'est absolument que des checkpoints, des grilles qui se ferment, des grilles qu'on n'arrive pas à rouvrir parce qu'on est du mauvais côté, des maisons qui ne s'ouvrent plus, des frontières, des murs plus ou moins haut, et pour autant c'est un film qui n'est pas du tout verrouillé. Et moi j'avais aussi peur du film à sujet, parce que c'est vraiment un film à sujet. Quand on lit les interviews du réalisateur, on peut avoir un petit peu peur de ça, et c'est un film qui s'échappe en fait en permanence. Il y a deux scènes, moi je trouve particulièrement, c'est des espèces de moments de folie. Cette fameuse scène où il est pris en stop pour aller à Los Angeles par un Américain qui devient menaçant, enfin à la fois très
inquiétant,
fragile et très menaçant, et puis cette visite d'une villa à Beverly Hills, qui est quand même un moment, je trouve, assez magnifique, où vraiment là on est totalement du côté du conte ou du cauchemar, on sait pas trop.
Bon, c'est le premier grand film de la rentrée pour moi, avant Aquarius qui sort la semaine prochaine.
Comment c'est quand la rentrée?
Là, aujourd'hui.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Parce que vous savez que je ne mets pas Tony Erdmann dans les premiers grands films de la rentrée.
Oui,
mais il faut
oui.
bien qu'on ne soit pas toujours d'accord.
Ah, Jimaudi, enfin,
non. Ouais, non, là vraiment, je trouve qu'on est à un autre niveau avec Soy Nero, mais j'exprime mon point de vue tout personnel pour inciter.
Victoria, non,
écoutez, là, on n'est pas dans la même catégorie. Soyons sérieux. Même si j'aime bien Victoria, hein, mais Soy Nero, il faut y aller dès demain matin. Vous savez que les premières séances sont importantes. Si vous le pouvez, allez au plus tôt voir ce film de Rafi Pitz, Soy Nero.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
On va continuer à se disputer ou pas, cette fois autour de Brooklyn Village, couronné par le Grand Prix du Festival du film américain de Deauville il y a peu de jours, qui sort demain dans les salles françaises. On précise que le titre original, quand même, c'est Little Men, les petits hommes, qui rend quand même mieux compte du sujet du film, puisqu'on va suivre l'amitié de garçons adolescents, là étant le fils de Bobo New-Yorkais, le père acteur sans beaucoup d'emploi et la mère psy, forcément, et qui hérite de la maison du grand-père à Brooklyn. Et puis l'autre, Little Men, Man, c'est le fils de la couturière latino-américaine qui tient donc une petite boutique de mode au rez-de-chaussée de cette maison en question. Problème, les bobos ont du mal à joindre les deux bouts et le loyer du magasin est ridiculement bas dans ce quartier devenu très branché.
I don't want to move to Brooklyn.
Is that woman waiting for us?
No, she rents the store downstairs.
I'm so sorry. I thought it was such a wonderful man.
Thank you.
My son, Antonio. I can show you around. You know, you're gonna like this neighborhood. It's become a very bohemian area.
So how are you enjoying Brooklyn so far?
It's a lot more peaceful than Manhattan, and we have much more space. It's great.
But the neighborhood is changing, and that's a very old-fashioned store.
Mommy, can I stay for dinner tonight with the Jardines?
Have you spoken to your father about this?
We have this rule in the house, no games during the week and no internet before 5 either.
My sister has worked out the new lease.
I can't pay 3 times what I paid to your father.
Tony, you need to go home now.
I know you think with the rich people coming into this neighborhood, Brian hasn't made me money in years. We need the shop to cover its rent.
The woman is trouble, Brian.
I just don't want this to get ugly. Great that the two of them get along so well.
How could you do that to them?
Say something, Jake.
Finalement, écouter la bande-annonce, on pourrait juste parler des films à partir de leur bande originale, celle-là qu'on vient d'entendre, celle de Brooklyn Village, mais nous, on va en dire un peu plus. Thierry Chaise, pour commencer.
Moi, j'ai une grande tendresse pour le cinéma de d'Ira Sachs. J'avais beaucoup aimé son film précédent, qui s'appelait Love is Strange, qui était un portrait d'un couple d'hommes qui, après une quarantaine d'années de vie commune, se trouvent obligés de quitter déjà leur appartement new-yorkais, qui était devenu trop cher pour eux. C'est donc une thématique... qui
doit être très personnel.
Il y a toujours une délicatesse de, moi je trouve, de la manière dont ils traitaient cette séparation contrainte sur les conséquences sur eux et sur leurs proches était, je trouve, très très délicat. Donc là, on revient sur ce qu'on peut appeler les petits événements anodins du quotidien qui ont des conséquences souvent ravageuses sur ceux qui y sont confrontés. Alors donc, comme vous l'avez dit, déménagement contraint et forcé, ça pourrait être une grande démonstration sur la gentrification. Or, elle a été faite de manière beaucoup plus brillante par un documentariste il y a peu, qui est Ike Wiseman, Jackson Heights, un autre quartier. Voilà, c'est indiqué. Donc là, ce que je trouve attachant dans ce film, en tout cas, c'est qu'il va vraiment s'intéresser aux conséquences de cet affrontement entre ces adultes où on n'ose pas se dire les choses, on n'ose pas se dire directement... Il faut que vous partiez, parce que comment chasser quelqu'un? Parce qu'on est quand même plutôt démocrate et plutôt de gauche, même si c'est une gauche américaine. Et en même temps, il faut bien chasser quelqu'un. Et comment ces non-dits vont mettre à mal l'amitié vraiment entre ces deux enfants? Et je trouve qu'il arrive à régler, à filmer cette histoire à hauteur de ces enfants-là, sans en faire un film abêtissant, abrutissant, en maintenant quelque chose de doux amer, qui fait que oui, c'est une petite chose, qu'on n'est pas dans les grands thèmes abordés par un seul héros, qu'on n'est pas dans cette même mise en scène-là, mais qu'il y a une subtilité dans la comédie douce amère que je trouve, moi, vraiment intéressante et qui me séduit.
Bon, Antoine Guillot, sensible à cette douce amertume ?
Je suis assez sur le mode de Thierry Chaise. Je trouve que c'est un cinéma assez délicat, assez fataliste aussi politiquement parlant, c'est-à-dire qu'effectivement, il va voir et filmer des réalités réalité socio-économique et en faire cinéma avec une vraie empathie pour tout le monde. Alors c'est aussi les possibles limites du film, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais parti, il dit c'est comme ça, voilà, il y a objectivement des processus économiques qui font que la boboisation, gentrification, comme vous voulez, des lieux se passe sans que quiconque soit désignable comme un coupable, parce que chacun effectivement a ses raisons, enfin, Renoir, etc. Après, je trouve qu'il est plus à l'aise pour filmer les personnages positifs et un peu purs et naifs du film que sont les enfants. C'est-à-dire cette manière de filmer l'amitié, je la trouve très très jolie, vraiment, et très très émouvante, très délicate, y compris le simple fait de filmer des trajets dans les rues, comment on peut se construire une amitié. Les personnages des adultes sont un peu plus grossièrement dessinés, je dirais, dans leur manière explicative de donner leur raison. On aurait pu s'en passer, on l'entend même dans la bande-annonce, hein, moi j'y peux rien, mais voilà, moi j'ai
les acteurs ne travaillent pas beaucoup.
Et en même temps, c'est une manière de montrer que tous ces films américains sur celui qui va s'en sortir, on en parlait à propos de manière beaucoup plus explicite dans Showgirls, mais celui qui va s'en sortir par la seule force de son talent artistique qui va lui permettre de mener carrière, il montre quand même que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a un déterminisme de classe, y compris dans une carrière artistique. Et ça, je trouve ça assez rare de le montrer avec cette acuité-là dans le film. Après, encore une fois, c'est pas un film qui va vous porter, parce que cette manière de rester à distance de son sujet, une sorte de distance équanime entre tous les personnages, en fait un film presque trop poli pour nous emporter. Mais je reste malgré tout, voilà, sur cette douceur délicate dans la manière de montrer les relations, notamment entre deux amis.
Alors, avant même, j'ai un Lester, Lucille Como, qui hausse beaucoup les sourcils sur ce film, Brooklyn Village.
Non, mais moi, je pense pas que ce soit de la distance, en fait, qu'il adopte. C'est vraiment de la lâcheté. C'est-à-dire qu'il prend un sujet et il adopte exactement la même attitude que le personnage qui est un peu quand même le personnage principal, disons, parmi les adultes, à savoir le père, à qui il a inventé de manière assez pratique une sœur qui joue le rôle de la méchante, à savoir celle qui veut absolument récupérer les sous du loyer. Mais on a l'impression que rien n'est dit sur le sujet qui est traité, alors que le sujet s'assume comme tel dès le début du film. En fait, il filme la bonne conscience de cette catégorie d'Américains, en effet, de gauche, comme vous disiez, Thierry, mais il adopte exactement la même attitude, ce qui annule totalement le propos du film, à mon avis, qui le rend vraiment pas intéressant.
Je suis un gestère.
Mais je pense que le sujet du film, en fait, est à vrai dire pas du tout là. Mais il me semble que, enfin, vous avez raison de pointer que le personnage central chez les adultes, c'est évidemment le personnage donc du père, joué par Greg Kinnear, qui est un acteur que je trouve merveilleux et qu'on voit pas forcément assez dans des rôles aussi délicats et exposés que celui-là. Mais c'est vraiment à deux reprises la voix du film. D'une part, parce qu'il me semble que le film, il dit une première chose qu'il dit, qui est au début ce qu'il dit après le déménagement à son fils, on a peut-être perdu ses dessins, mais tu verras, on perd des choses, c'est bien, voilà. Ça fait au début, ça, on regrette, et puis ensuite ça fait du bien. Et le film, je pense, parle vraiment avant tout ça, et la scène finale va un peu dans ce sens, de cette question de comment on construit des choses qu'on abandonne et qui nous construisent aussi, et qu'il faut laisser partir derrière, même s'il y a une part de violence là-dedans. Mmh. Et c'est cette violence-là qu'il filme, et en même temps, comment elle peut structurer et derrière accompagner ce personnage-là de l'enfant, plus favorisé que l'autre, à travers cette amitié qu'il filme de manière extrêmement pure, alors que, et ça, je pense que c'est le film de la mise en scène, en quelque sorte, qui recouvre le film du scénario, qui lui est un film très cruel, dans à la fois la manière, je pense, de mettre en place les personnages, mais aussi de les évacuer par la suite, d'en évacuer un certain nombre d'entre eux, de les lâcher en cours de route, et de les renvoyer justement à une forme de déterminisme qui est, face auquel je ferais bien le mot d'Antoine Guillaume, enfin, Ira Sachs, scénariste en tout cas, est absolument fataliste. En revanche, à ça se superpose un film qui est, je trouve, absolument doux, absolument pur, qui est une sorte de film d'amitié enfantine, d'amitié adolescente, et qui est vraiment le film de la mise en scène, parce que précisément à l'inverse du scénario, le metteur en scène, Ira Sachs, lui, s'identifie à ce gamin. Et ça se sent dans ce dernier plan du film, que je trouve très très beau, très gracieux, et qui emporte justement toutes les réserves qu'on pourrait avoir sur ce que le film dit de la fin, de tout ce qu'il peut dire, de tout ce qu'il peut charrier d'humeur saumâtre, de tout ce qu'il peut dire de cruauté, qui est peut-être un peu escamoté justement par le scénario. Et l'autre chose, évidemment, que dit le personnage du père plus tard, c'est justement, il s'adresse à son fils qui fait, comme Harry Sachs allait chercher ça dans Bonjour d'Ozu, il raconte comment il est parti du film et qu'il a mis des éléments de la vie de son compagnon dedans pour composer le scénario. Il s'adresse à son fils et son ami qui font grève de la parole, mm-hmm. en disant, mais tu sais, nous aussi adultes, nous sommes des personnes, nous sommes des êtres de chair et nous avons des sentiments et nous faisons des erreurs. Et c'est comme si l'autre projet du film, évidemment un peu secret, c'est Ira Sachs filmant adulte, filmant une forme d'enfant qu'il aurait, d'adolescent qu'il aurait pu être, et le faisant triompher sur ce que un scénario justement très très verrouillé et un peu lesté de son équationnisme et de son sujet en fait aurait rendu sans doute un peu pesant, un peu sommaire, un peu et justement n'aurait fait demeurer que dans ce qui charrie de cruauté.
La réponse, Lucien.
Enfin, moi, je trouve que justement le problème, c'est que c'est pas du tout un film pesant. C'est un film très gentil. Ça, j'entends bien sur les deux enfants. Moi, ça m'a pas particulièrement intéressé. Mais les seules scènes un peu saillantes, justement potentiellement de tension, elles sont justement pas cruelles. Je pense à une scène qui potentiellement pouvait être intéressante, où tout le monde se retrouve dans la même pièce pour parler de ce fameux loyer qu'il faudrait augmenter, et où il y a un moment où plus personne ne sait quoi dire parce qu'en fait on arrive au silence, quoi, on sait plus quoi dire. Là, il y a une vraie tension. Et le film dévie, enfin, on a l'impression qu'il évite absolument cette question, qui est une question sociale certes, mais qui est aussi une question de mise en scène, justement de cinéma, de tension entre des personnages. Mais vous voyez, une stratégie d'évitement permanent.
Mais bien sûr, mais vous voyez pas la cruauté dans les scènes où justement la tenancière de la boutique explique au père qui vient lui réclamer, qui est a priori son propriétaire et qui est le dépositaire d'une famille qui vient lui réclamer des droits essentiellement financiers, à quel point elle avait une relation plus forte, par exemple, avec son... Et de manière d'ailleurs assez appuyée,
on n'est pas obligé de la croire.
Ce qui est un vrai risque, oui, mais bien sûr, mais mettre un personnage comme ça, qui est victimisé a priori par la situation qui lui est faite, au risque justement de se montrer aussi agressive, aussi antipathique, etc. Je trouve que c'est pas rien dans le film. Alors ça, c'est pour le coup, c'est un acte de scénario, mais je trouve que c'est vraiment très bien porté par l'actrice et que Carrie justement arrive justement à se tenir à cette distance qui rend la scène subtile, qui fait qu'on ne peut pas, basculer dans quelque chose de manichéen dans cette situation, et que là il y a une tension justement qui est totalement, je trouve, inattendue par rapport au rapport de force a priori qui est mis en place et aux attentes qu'on peut projeter dedans.
Ouais, mais justement
il y a aussi la cruauté de ce qui est fait justement à cette femme.
Mais pour finir là-dessus, même mesure où il s'efforce, je trouve, qu'il n'y ait pas de méchant, mais du coup ça aboutit au fait qu'il n'y ait pas de gentil, en fait. Il y a vraiment un problème pour moi d'empathie.
Mais on n'a peut-être pas besoin de ça.
Oui, mais sauf que le film ne parle que de faire le bien ou faire le mal et se pose cette question-là et ne propose pas de vrai point de vue. Je trouve qu'effectivement, il évite beaucoup son sujet.
Mais la force, je pense, du film, c'est que son empathie se déploie partout, qu'il arrive à faire exister tout
pour
le monde.
Pour moi, nulle part.
Comme personnage.
Non, mais voyez, enfin.
Et ce, malgré le fait que ce à quoi on assiste, c'est quand même un
peu. La mère et le revers de la médaille.
Fait la première rencontre significative de son existence et lui vole son rêve, en quelque sorte, sans rien dévoiler de ce qui advient, mais c'est ce qui se passe dans le film. Ouais.
Bon, dernier mot, Antoine, Guillaume.
Non, je suis plutôt d'accord là-dessus avec Julien Gester. Je crois que beaucoup de personnages existent avec ce mélange à la fois de cruauté et d'innocence qui est, je pense, constitutif de la vie de tout le monde.
Ah, Brooklyn Village, Ira Sachs sort demain sur les écrans français. Et nous concluons cette émission avec le jeu de la dispute. On commence par un rappel du jeu d'hier soir pour enfin en connaître la réponse, Lucille Comeau.
Alors voici la question. Deux des créations d'Olivier Dubois portent le nom d'une créature chère à Mallarmé. Quelle est cette créature? Et la réponse est le faune.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour l'exposition qui a lieu au bal à Paris en ce moment jusqu'au 11 décembre, consacrée à la revue japonaise Provoke, entre contestation et performance. Quelle est la question, Lucille?
Alors, Provoke est une revue japonaise légendaire qui publiait en 68 des clichés souvent pris dans ce qui était alors le quartier de la contre-culture à Tokyo. Quel est le nom de ce quartier?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Lucille Comeau, Thierry Chaise, Julien Gester et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Informations sur cette émission sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Émission possible également grâce à Daniel Finot, Olivier Guérin, Virginie Ledio, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son ce soir, Claire Levasseur. Réalisation, Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Yasmine Youssi et Freda Egbonnet. À notre affiche, Collectia, l'art contemporain en URSS. C'est au Centre Pompidou et provoque justement l'exposition au bal. On évoquera aussi plus rapidement Incertitza Viva, la Biennale de São Paulo. Et nous évoquerons aussi la disparition du photographe Gérard Rondeau. Tout cela, c'est pour demain. Vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Les discussions du soir, dans quelques instants, le journal de la rédaction.